On va se rendre dans le secteur de Saint-Joachim de Courval. C'est, si on veut, l'autre côté de la 20, la transcanadienne, face à Drummondville, où un hélicoptère s'est écrasé hier soir dans un champ. Ça a fait malheureusement 3 morts. Et de ce qu'on apprenait dans les dernières heures, il s'agirait, les victimes, d'un père, sa fille et une amie de sa fille, des gens qui demeuraient dans le secteur de la Nodière. On va aller justement retrouver notre collègue de Cogeco Nouvelles, Julie-Christine Gagnon, qui est sur place. Bonjour Julie-Christine.
Salut Martin.
On a confirmé l'identité des victimes, d'ailleurs dans les dernières heures, des gens du secteur de la Nodière.
Oui, voilà, il s'agit de Jean-Claude Mayotte, de sa fille Janie Mayotte et d'une amie de celle-ci, Nathalie Desrosiers, des gens de Lanaudière, un homme d'affaires très connu, Jean-Claude Mayotte, qui a une compagnie qui s'appelle Lanoco, compagnie en ingénierie qui faisait de la maintenance de lignes électriques. Monsieur Mayotte, il était le père de 4 enfants. Sa fille, qui est aussi décédée dans ce tragique accident, était elle mère de 2 enfants de 6 et 4 ans, donc vraiment un drame pour cette famille, qui est survenue donc autour de 21h hier, pas très loin d'où je me trouve, Martin, là, dans un champ à quelques 300 mètres du rang Saint-Jean-Baptiste à Saint-Joachim-de-Courval, qui a été fusionné à Drummondville.
Oui.
C'est tout près de la rivière Saint-François. C'est la ferme du bassin, pour les gens qui connaissent peut-être. C'est une ferme touristique, là. Donc, l'appareil qui s'est écrasé autour de 21 heures, c'est le propriétaire de la ferme et son neveu, Marc Descoteaux, Claude Descoteaux, qui ont vu une boule de feu dans le champ hier soir et qui ont pris donc leur motoneige pour aller voir ce qui se passait. Malheureusement, arrivés sur place, ils ont vite constaté là, que c'était un appareil qui s'était écrasé. L'appareil était en feu. Les passagers sont probablement morts sur le coup, ce qu'on comprend. L'impact a été violent.
Oui, parce
que l'appareil a pris en feu.
Oui, parce que lorsqu'on voit les images, les débris s'étendent sur plusieurs mètres et il reste que... c'est incroyable d'ailleurs ce qui reste, la carcasse de l'appareil.
Ah oui, et là les enquêteurs ont une lourde tâche, en fait, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi cet appareil-là, on parle d'un Robinson R-44, s'est écrasé. Toutes les hypothèses sont encore sur la table. Est-ce que c'est un bris mécanique? Est-ce que c'est une erreur de pilotage? Mais il semble que les conditions météo n'étaient pas optimales. On parle de bourrasques de neige hier soir ici, de vent aussi qui était assez soutenu. Alors, est-ce que c'est ça qui aurait fait en sorte que le pilote a perdu le contrôle de son appareil?
Ouais.
Jean-Claude Mayotte pilotait ce genre d'appareil. En fait, l'appareil lui appartenait, c'est un hélicoptère privé, et il le pilotait depuis plusieurs années déjà. Alors, le BST qui enquête en ce moment là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
D'ailleurs, on peut entendre la porte-parole là, du BST que tu as rencontré.
Pierre Gavillet, d'ailleurs. D'accord, on peut l'écouter justement sur les conditions météo hier.
C'est peu fréquent que le vent cause la perte de contrôle. Ce qui est plus problématique, c'est la réduction de la visibilité. Puis, effectivement, il y avait des centres localisés où il semble avoir eu un peu de vent, peut-être des réductions de visibilité.
Tu as eu l'occasion également, Julie-Christine, de rencontrer là, Marc Descoteaux, qui a été le premier à arriver sur place.
Oui, en fait, lui, on se rendait à la ferme comme il le fait à chaque soir quand il a senti et vu la boule de feu. On peut écouter ce qu'il avait à dire.
J'arrivais du bâtiment de la ferme faire une vérification comme je fais à chaque soir. Il y avait une odeur de brûlé dans l'air, mais pas une odeur de bois, plutôt une odeur de fer brûlé, là, comme de soudure. Et puis, je trouvais ça étrange. Et puis, avant d'entrer dans la maison, je voyais dans le champ, on aurait dit un feu de camp en plein milieu d'un champ, là, quand même à 800 mètres de chez moi, là.
Ce qui est particulier dans ce qu'il mentionne et ce que tu as souligné également tout à l'heure, c'est cette boule de feu, c'est donc dire que l'appareil aurait pris feu en vol?
En fait, ce qu'on pense, c'est que l'appareil a pris feu après avoir heurté violemment le sol.
Ah oui, OK.
C'est ce qu'on pense pour l'instant. Ouais. Mais écoutez, l'enquête débute. Est-ce que les enquêteurs arriveront à une autre conclusion? Ouais. Mais ce qu'on comprend pour l'instant, c'est sous la force de l'impact, l'appareil aurait pris en feu. Et c'est un secteur assez difficile. Il faut comprendre aussi là, qu'on a dû demander à la ville de Drummondville de coopérer pour ouvrir un chemin pour que les secours puissent se rendre. Comme je vous le dis,
ouais.
Marc Descoteaux et Guy Descoteaux, qui restent très près d'ici, ont dû se rendre... ont pu se rendre à l'aide de motoneige. Alors, on a demandé aux appareils de la ville, aux déneigeuses de la ville, de faire un chemin pour les secours. Mais malheureusement, là, il était trop tard quand on est arrivé sur place. Là, les personnes étaient décédées à l'intérieur là, de l'hélicoptère.
Les enquêteurs, est-ce qu'ils croient passer encore plusieurs heures ou même des jours là ou...
On nous a dit que ça pourrait prendre plusieurs heures. On n'a pas parlé de jours. Ils nous ont pas dit non plus. En fait, ils savaient pas là, s'ils étaient pour amener des pièces de l'hélicoptère en laboratoire pour avoir plus d'informations. Comme je vous le dis, c'est pas évident de travailler aujourd'hui parce qu'il fait extrêmement froid. On se trouve en plein milieu d'un champ, il vente, on n'est pas très loin d'une rivière. Alors, c'est pas des conditions optimales peut-être pour les enquêteurs. On n'avait pas pris de décision là, à savoir si on était pour amener des pièces de l'hélicoptère en laboratoire. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ce type d'appareil-là n'a pas généralement de boîte noire. On parle d'une balise de détresse. Encore là, on ne sait pas si cet appareil-là était muni de cette balise de détresse. Ça pourrait donner quelques indices aux enquêteurs pour savoir ce qui s'est passé. Mais on est à la recherche de tout ça actuellement.
Merci beaucoup, Julie-Christine.
Au revoir.
Merci, Julie-Christine Gagnon de Cogeco Nouvelles, donc à Saint-Joachin de Courval, qui fait partie maintenant du Grand Drummondville. Hein. C'est pour nous, là, c'est situé de l'autre côté de la Transcanadienne de l'autoroute 20.